Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, il est minuit 5. Vous écoutez RMC. On est là encore pendant une grosse demi-heure avec Julien Laurence dans quelques minutes avec Paulo Breitner. Et ensuite, ce sera le tennis parce que à 1h tout à l'heure, Caroline Garcia joue sa demi-finale de l'US Open face à la Tunisienne Ons Jabeur. Oussem Loussaïef a choisi son camp. voilà. Et on verra tout à l'heure, bien sûr, avec Nicolas Jamin, Eric Salio et Florent Serra. Ce que donne ce match, en tout cas il sera à suivre toute la nuit sur RMC jusqu'au bout. À minuit 5, on va parler de Nice et on accueille Paulo Breitner qui est là. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Alors Paulo, avant que tu nous dises ce qui s'est dit ce soir à Cologne sur le sportif et le reste, j'aimerais qu'on accueille Fred qui fait partie des personnes qui assuraient la sécurité au stade ce soir. Bien sûr, avant de parler du match, on va parler de ce qui s'est passé avant la rencontre. Fred, bonsoir.
Oui, bonsoir Gilbert.
Alors, rappelons évidemment qu'il y a une dizaine de blessés ce soir. À un moment, il y a même eu un supporter dans un état très grave. Mais finalement, il y a eu des nouvelles plutôt rassurantes le concernant. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as vu dans la journée à Nice et au stade ce soir?
Alors nous, les échos qu'on a eus, c'est qu'à Nice, c'était un peu le pillage un peu partout, surtout au centre-ville. Je crois qu'ils ont pillé et dégradé.
Là, on parle des supporters allemands, en l'occurrence, hein.
Oui, ils ont dégradé la boutique de l'OGC Nice. Et ensuite, en fait, au stade, ce qui s'est passé, c'est que les vrais supporters de Cologne sont rentrés. Et à un moment donné, en fait, on a vu arriver entre 50 et 100 hooligans, cagoulés, visage caché. Alors, ils sont attaqués d'abord aux policiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des policiers à l'intérieur du stade. Mmh. Des policiers qui s'occupaient, on appelle ça la cire, là, ils s'occupaient des... tout ce qui a des problèmes dans le stade, à l'intérieur du stade et autour de la pelouse. Et ils sont pris à eux. En fait, ils voulaient... Alors, pour ceux qui connaissent l'Alas Arena, le stade, en fait, il y a une coursive à l'intérieur qui fait complètement le tour, sans filtrage, sans rien du tout. Donc, on peut passer d'un bout en bout du stade en passant par les coursives ou par les gradins. Donc, ces hooligans ont commencé à attaquer les policiers. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux policiers qui ont été blessés. Hein. Je crois aussi un fumigène... au niveau du cou, avec une légère blessure, et un autre sur la tête. Donc, c'était des violents, des ultras, des sauvages. J'ai rarement vu ça dans un stade. Et ils frappaient tout ce qui était devant eux, les agents de sécurité, les stewards, les policiers. Ils cherchaient à en découdre avec les supporters niçois. Ils allaient même jusqu'à récupérer des bouteilles de bière, des tessons de bouteilles dans une loge. Et, et je peux t'assurer, Gilbert, c'est hallucinant. Et après coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des Français parmi eux. Parmi ces ultras, il y avait des Français, des supporters du PSG. Des ultras, pas des supporters, hein. Des ultras.
Alors, oui, il faut préciser un truc, parce que voilà. Donc, ce sont membres d'un groupe qui n'existe plus.
Absolument.
Qui s'appelle les Supras, qui étaient à l'époque dans le virage Auteuil.
Exactement.
Donc en fait, je ne sais pas si on peut encore dire aujourd'hui que ce sont les supporters du PSG.
Que les mecs se revendiquent supporters du PSG peut-être, mais en tout cas, ils n'ont aucun rapport avec le collectif Ultra Paris d'aujourd'hui, qui d'ailleurs...
on ne sait pas s'ils vont encore au stade au Parc des Princes, par exemple, ces gens-là.
On ne le sait
pas.
On
peut considérer qu'ils restent quand même sans doute attachés à leur club, qui est leur club, mais
on ne le sait pas, pour avoir échangé avec quelques personnes du CUP. Ils me disent on n'a absolument rien à voir avec ces gens-là, on ne sait pas qui ils sont, c'est pas des gens qui font partie de notre groupe, c'est pas des gens qui sont affiliés chez nous ou encartés chez nous.
Et on sait qu'historiquement il y a un lien entre ces supporters-là et ceux de Cologne.
Et aussi dans la rivalité avec
Nice. Il y a un jumelage de groupe, en fait.
Voilà.
Comme ça arrive souvent dans le monde ultra.
Voilà. Gilbert, Daniel, je ne sais pas si vous avez vu celui qui a été blessé par arme blanche.
Ouais.
C'est un ultra parisien, et je crois que même un photographe de RMC l'a pris en photo, parce qu'on le voit.
Hein. Oui, non, mais moi j'ai la photo, j'ai reçu la photo, effectivement.
Voilà, tu l'as reçu.
À RMC, on n'a pas de photographe, mais effectivement, il y a une photo qui est sur notre site, en fait.
C'est hallucinant. Et petite anecdote, hein, j'ai parlé avec eux, hein, avec ces pseudo-supporters, parce que ce ne sont pas des supporters, sont venus pour se battre. Sont venus uniquement pour se battre.
Absolument, ils sont venus pour ça.
Tout ce qui bouge, hein. Les policiers qui étaient à l'intérieur, je peux vous assurer, ils en ont pris plein à leur gueule. Hein. Le policier qui a eu la veste brûlée, je ne sais pas si... veste brûlée à quelques centimètres dans le visage, il avait le visage cramé. Hein. Et ce n'était pas des supporters, ni de Cologne, ni du PSG. Hein.
Et donc tu disais avoir essayé de parler avec eux.
Ah, mais Daniel, j'ai parlé avec eux.
Et alors?
Daniel, alors je t'explique, je leur ai dit, mais putain, bon sang, vous voulez faire des fights, faites des fights en dehors du stade. Vous faites chier à venir ici, à casser les couilles à tout le monde, excusez-moi d'être vulgaire. Donc voilà quoi, ah mais c'est hallucinant.
Et t'as eu une réponse à ça?
Oui, c'est hallucinant, après j'ai pas attendu Daniel, dis-moi.
Tu as eu une réponse à ça?
Ah non, mais alors je peux t'assurer, là, c'est lunaire. C'est lunaire, alors ils étaient alcoolisés, un sur deux était alcoolisé. Lunaire, ben c'est comme ça, et c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur cerveau. Je peux comprendre le phénomène ultra.
Quand eux, ils répondaient, c'est comme ça.
Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'ils sont... Alors, je t'explique. Hein. Les vrais supporters de Cologne sont rentrés dans les tribunes. On chantait, il n'y avait pas de souci. Eux, quand ils sont rentrés dans les tribunes, mais c'était juste pour en découdre. Alors, tu passais devant eux, ben, tu
prenais... Non, mais là, ça, on est dans l'expression pure et simple du hooliganisme. Finalement, la question qu'il faut se poser ce soir, c'est... qu'est-ce qu'on fait les supporters allemands? Ça, je ne le sais. Ouais, est-ce
alors,
qu'on le sait?
Daniel, précision, la journée, il y a eu. Ça, c'est important et je pense que Polo nous le racontera aussi. Mais on a vu pas mal de vidéos où les supporters, on va dire, pacifiques et positifs de Cologne ont voulu aussi faire le ménage en voulant sortir les hooligans. Il y a eu des bagarres entre supporters.
Est-ce qu'il y avait des hooligans allemands ou tout ce qui a été hooliganisme sont que le fruit de ces, Daniel, 50 ou 100 Parisiens qui étaient venus là pour foutre la merde?
Je te confirme, il y avait une partie qui était allemand et une partie qui était parisienne.
D'accord.
Parisienne.
Il y avait un jumelage de hooligans.
Ultra, oui, hooligans, même pas ultra, allez, je veux dire des hooligans.
Ah non, là, c'est du hooliganisme, là, faut pas. Voilà.
Bon, on a aussi une vidéo qui est assez dingue où on voit un stadier, parce qu'à un moment c'était bagarre avec les stadiers, hein, on a vu des vidéos.
Oui, mais alors
il y a une vidéo où on voit un stadier qui attrape, vous savez, les espèces de pieds là, quand on fait une délimitation avec un bandeau là, enfin je sais pas comment vous appelez ça en langage de sécurité là. Le gars il prend le pied et il le fracasse sur le dos d'un Allemand. Bon, il y a eu des violences aussi un peu dans l'autre sens. Bon, après les gars répondent, c'est
Gilbert,
dramatique.
Gilbert, je peux t'assurer, Gilbert, ce qu'ont reçu les stadiers, ce qu'ont reçu les policiers. Il fallait le livre. Hein. Bon, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu. C'est hallucinant. Et j'ai beaucoup travaillé dans les stades. J'en ai vu des violents.
Fred, si tu as l'habitude, est-ce que tu considères qu'il n'y avait pas assez de forces de sécurité ce soir ou il y en avait assez?
Ah non, il n'y en avait pas assez, alors, ça c'est sûr.
Je t'explique. À l'extérieur, c'est assez difficile. Hein, les forces de sécurité, en fait, les policiers, pour intervenir au sein des tribunes, c'est assez compliqué. Il faut des instructions, tout ça. Mais à l'intérieur, à ce moment-là, je peux t'assurer que les policiers ont fait leur travail. Les ont contenus, les ont repoussés. Ben, on les voit, ceux qui sont en survêtement bleu sont des policiers. Hein. Je rappelle, ceux qui ont les survêtements bleus, tu les vois avec des boucliers, ce sont des policiers. Et ils les ont maintenus, ils les ont repoussés. Ils ont réussi à repousser certains, les autres sont passés par le haut des tribunes. Mais intervenir pour les policiers dans un stade, c'est assez particulier. C'est sur instruction. Après, ce qui se passe autour du stade, c'est d'autres policiers qui sont en charge. Est-ce qu'on peut... Daniel, Gilbert, tu peux mettre 200 policiers de plus, 300 policiers de plus. Quand tu as des hooligans, des sauvages pareils, parce que ce sont des sauvages, ça va à la castagne. Hein.
Ça va à la castagne. Ah oui, ils y vont de toute façon. Hein. Ils sont là pour ça.
Merci pour ce témoignage.
Ils y vont de toute façon.
Merci beaucoup.
Voilà. Je t'en prie, je vous en prie.
À très bientôt dans l'after, incroyable témoignage de Fred. Polo, qu'est-ce qu'on dit à Cologne ce soir?
Alors ça dépend si tu parles du club ou des médias allemands ou ce qui s'est passé du côté de Nice. Évidemment, le club de Cologne a déploré tout ce qui s'est passé, se désolidarise de tout ce qui s'est, etc. Moi, je pense que vous avez bien fait de noter quand même que l'énorme majorité des supporters de Cologne ont même sifflé ces énergumènes-là. Alors je sais pas s'il faut dire que ce sont des ultras ou s'il faut dire que ce sont des hooligans et qu'on assiste peut-être. Voilà.
On peut dire hooligan tranquillement quand même.
Ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, j'entends partout, sont les supporters allemands. Évidemment, la presse allemande ne dit rien parce qu'ils voient les vidéos. Et puis d'un seul coup, tu dis ah bah tiens, il y a un Parisien qui est dedans. Et ben là, les Allemands, la presse allemande commence à dire ah ben attention, c'est pas les Allemands, il y a des Parisiens. Et puis ensuite, on commence à entendre dire ah mais il y a peut-être aussi des gens du Borussia Dortmund. Ah mais oui, mais il y a des rapports entre les ultras de Cologne, comme tu disais, des associations d'ultra, ouais, entre Cologne, Paris, etc.
Pour aller taper d'autres mecs, quoi.
Moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait à peu près 8000 supporters de Cologne, que sur ces 8000 supporters, il y avait peut-être 50, 80, 100 énergumènes, et je pense que ça se prépare, ça arrive pas comme ça, ces genres de choses. Je constate aussi en Allemagne, depuis une dizaine d'années, une résurgence de la violence dans les stades ou autour des stades.
Bon, on pensait que c'était plutôt dans les clubs d'Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Est. Là, Cologne.
Mais ça n'empêche pas. Non, mais Cologne, il y a toujours un très gros club, Cologne. Alors, il y a peut-être un autre facteur qui est important, qu'on a vu aussi avec Francfort, c'est que ce sont des grands clubs historiques. Et des grands clubs historiques qui n'ont plus vécu de grandes épopées européennes depuis des années. Je vais prendre l'exemple de Cologne en 2018, lorsqu'ils sont partis en Angleterre. C'était contre Arsenal. On leur donne 3000 billets et il y avait plus de 20 000 demandes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les supporters de Cologne vont quand même en Angleterre, se baladent du côté de Londres, etc., dans la ville. On les voit, etc. Il y a des moments, tu vois, c'est un peu spécial aussi. Moi, je trouve ce contingentement de places, ouais. Quand il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans un stade. Mais ça, c'est un autre débat, je pense. Si tu veux, on considère en Allemagne aujourd'hui, il y a un institut qui travaille dessus, qu'il y a à peu près 10 500 personnes dangereuses, fichées, comme tu veux, différentes catégories, dans le football de première et seconde division allemande, qui vont dans les stades, qui sont repérés, etc. Je rappelle quand même qu'il faut... ça veut dire que ça fait à peu près 1,5-2% de ces personnes, c'est relativement beaucoup quand même déjà, par rapport à tout le football, à tous les supporters qui vont dans les stades le week-end, en première et deuxième division. J'ai pris que c'est... Mais le problème, c'est qu'on a 45 000 spectateurs de moyenne en première division, on en a 20 000 en seconde division, et si tu fais juste 1% ou 1,5%, bah ça fait du monde quand même. Et c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit c'est les supporters allemands. Demain, aujourd'hui, on dira c'est Cologne. Demain, on dira c'est les supporters de Francfort. Demain, on dira c'est les supporters montpellierains. Mais et après, on va commencer à nous dire, ah, mais c'est des ultras dedans. Et après, on va nous dire c'est le hooliganisme. Moi, j'aimerais qu'on dise c'est du hooliganisme. Ça fait, Daniel, enfin, on est à peu près tous de la même génération. On a connu le hooliganisme, le mot hooliganisme qui n'était pas entre guillemets un gros mot il y a 30, 40 ans, parce que c'était un vrai problème. On sait très bien ce qui s'est passé avec les clubs anglais qui ont été interdits de Coupe d'Europe et tout ça, et peut-être assiste-t-on, en tout cas moi c'est mon sentiment, mais je peux pas le prouver, hein, c'est juste une supputation, qu'on ait un retour d'une forme d'hooliganisme dans les stades et en Allemagne, mais pas qu'en Allemagne, qui me semble important, parce que encore une fois, c'est pas parce que t'as 80 énergumènes, hooligans c'est tout ça qu'il faut absolument attraper et foutre en taule tout ce que tu veux, qu'il faut réprimander.
Si on les attrape pas, je crois même pas qu'il y ait des attrapés.
Mais c'est très compliqué, mais moi c'est aussi l'une des critiques.
Peut-être qu'on le saura.
Tu as raison, Daniel, mais moi c'est l'une de mes critiques. Moi j'attends des sociologues, des personnes qui travaillent sur c'est quoi en sociologie ces personnes-là, d'où viennent-ils, etc. Tu parlais fort justement, Gilbert, de l'extrême droite, notamment dans l'ex-Allemagne de l'Est. Moi j'ai étudié politiquement les cartes de l'évolution de l'AFD. Évidemment que
c'est de la baston gratos, hein.
Si tu pars
de Paris à 50 pour faire le voyage jusqu'à Nice, en te disant on va taper sur tout ce qui bouge, évidemment dans ces cas-là les gars sont toujours alcoolisés et drogués parce que tu peux pas faire ça.
Si on parle des supras, c'est qu'il y avait une banderole supra aussi dans la tribune là.
Un groupe qui n'existe plus, donc des un peu vieux de la vieille. Si tu fais ce voyage-là, si t'arrives sur place, donc t'es obligé de prendre des substances pour arriver à faire ça après. C'est que t'es déterminé. Ça veut dire que c'est un plan dans ta tête où tu te dis j'y vais pour l'ultra-violence, quoi.
Donc moi c'est ça qui m'intéresse à ce niveau-là. Je peux t'assurer.
C'est dans le football, hein, depuis les années 70.
Mais là en plus on parle du foot professionnel.
Ce qui est dingue, c'est que ça se passe. Effectivement des fights au milieu de la forêt. Il y en a eu entre supporters de clubs français, hein. Au milieu de la forêt ou loin du stade, parce que normalement
ils ne rentrent jamais dans les stades.
C'est ça, exactement.
Parce que la sécurité fait en sorte que ça n'arrive plus. Et ça, c'est.
Mais là, Fred nous disait ça, mais il y a quand même eu faille à un moment.
Et ça, c'est une vraie question qu'il faudra poser à Nice, parce que Nice ce soir se défend et dit on a bien organisé. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire que c'est bien organisé. À partir du moment où des gens sont rentrés dans votre stade, que le mec qui a chuté, il était dans le stade, que le mec et les mecs ont foncé de l'autre côté pour en découdre avec les Niçois, si les mecs sont rentrés, c'est que c'était pas bien foutu, votre histoire. C'est que il y a eu des failles. Soit pas assez de force de l'ordre dehors, pas assez de force de l'ordre dedans, pas assez de stewards à l'intérieur puisque se sont fait agresser. De toute façon, il y a eu des faillances sécuritaires. Sinon, ça ne peut pas arriver dans un stade. C'est autant dans les rues, chaque match de Coupe d'Europe, d'Europa League, chaque année, t'as des phénomènes de ce genre-là. Souvent, on en parle. Parfois, la plupart du temps, on n'en parle même plus. Mais à l'intérieur d'un stade, c'est quand même très, très rare.
Alors, j'aimerais, bon, on va conclure là-dessus, on pourra y revenir dans les jours qui viennent, parce que cette histoire, évidemment, aura des rebondissements. Ça fait écho quand même parfaitement, Daniel, à notre dernier numéro de la revue de l'After, qui parle justement de ces problèmes-là. Notamment Timothée Mémon, qui a enquêté sur les liens entre groupes ultra. Il y a même une carte dans la revue de l'After qui montre les liens qui existent entre pas mal de groupes ultra en France et à l'étranger. C'est assez, très intéressant. Donc, on n'avait pas, à vrai dire, on n'avait pas le lien entre les ex, parce que là, ça va loin. C'est les ex, assos qui n'existent plus, qui ont gardé des liens avec d'autres. Donc, bon, là, on est vraiment dans de l'entente qu'il faut connaître. C'est vraiment les ultra-initiés qui connaissent ça. Donc, il y a un dossier complet dans la revue de l'After qui est en kiosque. N'hésitez pas à vous la procurer ou alors sur afterfoot.media. Polo, le match, maintenant, on va accueillir David, parce que le match a eu lieu quand même. Il a démarré en retard. Et David était au stade. Salut, David.
Bah, salut à tous.
Merci d'avoir patienté. T'as assisté à tout ça, toi, avant le match, là, ou t'es arrivé plus tard?
Non, on est arrivé un peu plus tard. J'en ai resté 45 minutes, 50 minutes devant la tribune.
Mmh. Oui, parce que les tribunes ont été fermées puis réouvertes, hein, c'est ça?
Oui, mais on extrapole un peu le problème.
Hein.
Il y a eu, bien sûr qu'il y a eu des débordements et il n'y avait pas de policiers à l'intérieur du stade.
Nous, on a Fred, là, c'est un spécialiste de sécurité, il nous dit qu'il y en avait.
Peut-être que c'est un spécialiste de la sécurité, mais je vous dis que la majorité des policiers casqués et équipés étaient à l'extérieur. La preuve, ils nous ont fait contourner le stade pour pas passer derrière la
tribune. Ah, mais qu'il n'y en ait pas eu assez à l'intérieur, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que les fameux hooligans soient rentrés dedans. C'est déjà pas normal, ça.
Ah, ben ça c'est sûr. Mais ça, après, c'est certain. Après,
mais on n'extrapole rien du tout. C'est des incidents gravissimes qui ont eu lieu.
Bien sûr, mais à chaque fois qu'on parle de Nice, on parle des
eh ben, on y peut quoi, nous? C'est de notre faute.
Non,
c'est pas de notre faute si à Nice, en ce moment, il se passe des trucs qui sont ouf.
L'émission finit à minuit et demi, vous faites 20 minutes sur ce qui s'est passé autour.
Mais c'est gravissime ce qui s'est passé. C'est bien plus important que le match en bois qu'on a vu derrière.
Bon,
bien. Et puis, une nouvelle fois, attention, parce que les supporters de Nice, en fait, là. Moi, je sais même pas s'il y a une application quelconque. Les mecs sont venus juste pour. Comme l'a dit tout à l'heure Fred, ils ont bastonné tout ce qui passait. Donc, les stadiers, les policiers, tu vois. Donc, je sais même pas s'il y a une implication des ultra-niçois dans cette affaire. Hein. Tu vois ?
Non, les ultra-niçois.
A priori, non. Ils ont été plutôt agressés.
Nous, on parle plus de problèmes d'organisation, David, que de comportement des supporters niçois.
Je pense qu'il y a eu des défaillances au niveau du nombre de fonctionnaires de police dans le stade et à l'extérieur du stade, ça c'est sûr, mais ça c'est encore comme d'habitude, et après on met ça sur le dos du club, mais je suis pas d'accord, enfin c'est
non, mais personne n'a mis ça sur le dos du club, hein,
moi je pose la question. Quand Nice se défend et dit qu'ils ont tout bien organisé, je me permets de poser la question. Je me dis que si ça arrive dans un stade, que des hooligans rentrent dans un stade, ce qui n'est pas arrivé depuis des années, je me demande si vraiment ils ont bien tout fait. J'ai un problème avec ça.
C'est 50-50. Il y a une partie de défenseurs de police, je pense, qui aurait dû checker. Bien sûr, la sécurité à l'intérieur du stade qui aurait dû, enfin, dans l'enceinte du stade qui aurait dû checker. Après, comme on a vu, c'était des supporters, des anciens, enfin, pas des supporters, des hooligans qui étaient dans les tribunes ce soir. Et après, pour tout vous dire, on était autour du stade après et avant. Et sincèrement, les supporters de Cologne, c'était des gens normaux, quoi. Enfin,
oui. D'ailleurs, il y a des vidéos, il y a une vidéo qui est sur le site d'RMC Sport où tu vois la tribune de supporters qui chante Cologne, c'est nous, c'est pas eux. En fait, voilà, pour passer le message en allemand. Donc peut-être que
mais ça, c'est quelque chose qui c'est bien ce que tu disais, Gilbert, parce que moi, on est toujours en train de prendre le problème, je trouve, là où il y a eu des excès, etc. Mais moi, je me rappelle, il y a quelques années, les ultras de Schalke 04 faisaient le bazar dans le stade et l'ensemble du public qui restait, donc ça fait plus de 60 000 personnes, les a hués, quoi. Donc c'est-à-dire que on est toujours en train de dire les supporters d'eux.
Qui fout le bordel, hein, c'est bien
en fait le problème, on est toujours en train de dire les supporters d'eux. Et non, c'est pas ça. C'est déjà en termes, c'est une minorité sans la dévaluer.
Oui, mais ça, tout le monde le sait, Polo.
Je suis pas d'accord.
Je comprends que vous avez précisé, mais on sait très bien. Donc en fait, le problème, c'est qu'après, à force de dire oui, précisons, après, c'est comme si on avait peur de parler du vrai problème. Le vrai problème,
ça s'appelle le hooliganisme pour moi.
Voilà, exactement.
Ça, c'est un vrai problème.
Et bah donc,
ressortez dans les médias le mot hooliganisme, ressortez ce qui s'est passé dans les années 80-90.
C'est ce qu'on a dit dans dans la première minute. Nous, on est dans l'after. Okay. Là, moi, je peux pas. Si demain, je suis invité ailleurs où on fera des amalgames entre supporters, je dirais le contraire. Même concernant les supporters du Paris Saint-Germain, j'ai immédiatement dit que ces mecs-là n'ont absolument rien à voir avec le CUP d'aujourd'hui, qui est aujourd'hui totalement non violent et qui ne cause aucun problème nulle part. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, ces gars-là se revendiquent supporters du PSG. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est un phénomène qui touche le football, parce que c'est toujours en marge du football. C'est une sorte de un peu plus qu'un caillou dans la chaussure du football depuis les années 70. Ça traîne. Tous les matchs d'Europa League, très souvent, sont marqués par ce genre de choses, au minimum en ville,
et une ou deux bastons. Il y a beaucoup de problèmes dans les pays de l'Est, et nous, on ne suit pas ce football-là.
Voilà. Et là, aujourd'hui, à Nice, on en est au stade des questions. Est-ce que Nice a tout bien organisé pour que ces mecs-là rentrent à l'intérieur? Est-ce que c'est la direction nationale du hooliganisme qui veille quand les problèmes sont intérieurs au pays.
Normalement ces problèmes.
Oui, mais il y a un autre organisme qui gère quand il y a ceux qui viennent de l'extérieur. Là, en l'occurrence, ceux du PSG, est-ce qu'ils sont surveillés, pas surveillés, interdits de stade, est-ce qu'ils devaient pointer, est-ce que c'est des mecs qui ont jamais été repérés, ceux qui sont allés à Nice. Il y a quand même beaucoup de questions, Polo, auxquelles il faudra répondre, tu vois.
Mais je suis tout à fait d'accord.
Après, reste, savoir que sur les 7800, il n'y en avait peut-être que 100 qui ont foutu la merde, je pense que ça coule de source qu'on le sait, tout ça, de toute façon.
David, après la défaite face à Monaco, est-ce que tu considères que le point est bon à prendre?
Oui, bien sûr qu'il est bon à prendre. Il y a eu des belles choses, surtout en seconde mi-temps, et on est un peu plus rassurés en voyant Boulka dans les cages. On voit qu'il a galvanisé le public au début, et puis je sais pas, c'est beaucoup plus rassurant que.
Ah, tu préfères Boulka, Michel?
Ouais, bien sûr.
Ah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être une tendance lourde. Hein.
Je pense, et ça m'étonnerait pas que Fab le confirme pour Ajaccio ce week-end. Hein.
Et oui, il y a deux déplacements à venir, Ajaccio et le Partizan derrière, encore des matchs qu'il faudra surveiller au niveau tribune d'ailleurs. Oui, David.
Au niveau offensif, on a vu des belles choses. Diop qui faisait le taf et qui cassait des lignes. On avait Laborde qui à un moment où il touche la barre. On a eu Lautomba qui a fait comme contre Monaco des percées en cassant les lignes. Et à Nice, ça nous manquait ça depuis pas mal de temps. On jouait toujours de la même façon, soit sur les côtés ou soit on rejouait derrière. Et là, ça a fait du bien. Après, il y a encore du boulot, mais je pense que peut-être c'est un match en carton comme j'ai entendu, mais au moins il fait du bien au moral.
Oui, là, mais moi, pour avoir vu une partie aussi, c'est vrai que tu te dis là, il y avait du positif dans ce match. Bah, voilà.
En seconde mi-temps, bien sûr. En première, c'est Colin qui a tout bas, qui a le ballon tout le temps. Enfin, c'est en fait le problème, c'est que Colin s'est arrêté de jouer lors des changements à la 56e minute, et c'est là qu'on voit que Colin n'a pas de banc. Il y avait les 11 titulaires aujourd'hui, qui étaient l'équipe attendue. Je rappelle quand même que Colin, c'est un candidat théoriquement à la relégation en Bundesliga. Quoi.
Tu disais hier ou avant-hier que pour toi Nice est un meilleur effectif que Cologne.
Mais bien sûr, sur le papier, c'est largement. Enfin, il y a pas Ineos derrière Cologne. Cologne, ils se débrouillent tout seuls pour faire leur équipe. Ils sont en restructuration financière. Ils ont pas d'attaquant. Schindler, c'est un joueur de seconde division allemande. Schwebel, gardien, il est très moyen.
Sur la liste, hein. Bon, donc... Au départ, il est sur la liste.
Et au niveau de okay. l'effectif, soit le Brian venant de Chelsea. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux sans lui, quoi.
Ah, il est bidon, Joe Brian.
Bah, Brian, normalement, en non, plus, d'habitude, bidon, il reste à la cuisine, quoi.
Il y a un moment,
cuisine de kitchen. Il aurait pas dû en sortir, en fait.
David, je te remercie. C'est vrai qu'on a plus parlé des incidents que du match.
Je suis toujours dans les médias.
David, oui, mais en même temps, c'est pas anodin quand même.
Honnêtement, je suis très étonné de ta réaction. Enfin, c'est quelque chose de gravissime qui touche un stade avec. Et comment veux-tu qu'on ne parle pas de ça et qu'on parle plus du match? Je comprends pas, en fait.
C'est à chaque fois de Nice, c'est toujours ça. On parle toujours.
Mais c'est formidable, mais c'est pas de notre faute. En plus, tu dis de Nice à chaque fois, mais c'est pas à chaque fois, c'est arrivé une autre fois l'année dernière avec Marseille.
C'est arrivé pour Marseille, à chaque fois qu'il se passe quelque chose.
Mais tu sais, quand il y a eu des problèmes aussi à Marseille, par exemple, contre Feyenoord, Karabakh ou autre, on en a parlé aussi. C'est normal.
Pourquoi il y en a eu combien des problèmes à Nice à part le Nice-Marseille? Il y a un truc qui m'échappe, il y en a eu un autre?
Il y a eu Bastia contre Bastia.
Oui, Bastia contre Bastia, c'est historique.
Mais quand cette année?
Non, mais en général.
Bah, attends, t'es en train de me parler d'un truc, c'est une fois par an, ça va, c'est pas comme si on faisait des spéciales violences à Nice toutes les semaines.
Bon, David.
David, honnêtement, tu peux pas avoir cette réaction de supporter qui dit que, qui en plus croit qu'on fait une obsession alors que t'es en train de me dire qu'il y a ce soir et qu'il y a eu l'année dernière. Et qu'en plus, autant l'année dernière, on avait pu taper sur les Niçois, à mon sens, à juste titre, et je le maintiens, mais ce soir, on n'a rien dit, on n'a pas dit que les supporters niçois étaient dans le coup, jusqu'à ce que j'ai des preuves du contraire. Ils sont pas dans le coup ce soir.
Ah oui, exactement. Polo.
Donc vraiment, je comprends pas ta réaction. Je suis désolé, David.
T'as un truc à rajouter sur Cologne ou
non, bah, moi je considère que c'est un bon point parce que Cologne est. Même s'ils se débrouillent bien en Bundesliga, ils n'ont pas d'attaquant. Tigas, c'est le mec, il n'a pas de référence, rien du tout. Donc voilà, mais je serais content du point pour Cologne, quoi, c'est tout. Mais c'est dommage qu'il ait changé ses joueurs à la 56e parce que la dernière demi-heure, c'est compliqué pour eux.
Dans le groupe de Nantes, Fribourg gagne, donc Fribourg.
Ouais, bah alors, ça, c'est pareil, match pourri. Ils mènent 2-0 tranquille. Non, mais en fait, ils mènent 2-0 tranquille, tu te dis que ça va faire 6-0. Et puis, ils se prennent un but de 1, ils commencent à avoir la trouille pendant tout le match et ça finit à 2-1. Et quant à l'Union Berlin, c'était pourri.
Ah oui, ils perdent, dis donc.
Mais attends, c'est dramatique. C'était 2. Aussi bien l'Union Saint-Gilloise que l'Union Berlin, c'était 2 équipes qui vont à 10 km/h.
D'accord.
Donc, il y en a un qui marque un but en contre. Et l'autre qui, j'essaie d'égaliser tranquillement, mais poussif.
Avant de te laisser, Leipzig, c'est un nouveau coach.
Oui, alors évidemment, Marco Rose, on s'y attendait un petit peu. C'est-à-dire, évidemment, alors ça y est, en ce moment, il y a règlement de compte à Leipzig, parce que Domenico Tedesco a été licencié suite à la défaite, enfin au mauvais début de saison. D'ailleurs, le deuxième mauvais début de saison à la suite pour Leipzig, rappelez-vous de Jesse March l'année dernière, qui était pourtant un pur produit du cru de produit RB.
De la boutique.
De la boutique, ça a complètement explosé. Et justement, Rose, l'ancien de Dortmund, et lui, l'ancien de Salzbourg, revient dans la boutique, on va dire, RB revient dans la galaxie pour essayer de remonter ce qui est à remonter, mais il y a vraiment du travail et Domenico Tedesco. Donc, en fait, bon, je pense que lundi prochain, je vais faire un spécial focus sur Leipzig parce qu'il se passe des choses depuis 3 ans maintenant.
On attend cette spéciale avec impatience.
Voilà.
Daniel, t'es pressé?
Je vais laisser la place à ceux qui vont commenter cette demi-finale.
Tu me laisses tout seul avec Julien Laurence? Parce qu'il est là, Julien.
Ah, d'accord. Très bien. Moi, je pensais que c'était Nico qui arrivait, moi.
Il arrive, Nico, dans quelques... Juste... Allez, on pousse de 5 minutes avec Julien qui est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Bon, j'ai évidemment l'actu. T'as rattrapé hein, ce soir, je pense que... Alors, d'ailleurs, on évoque un report de la journée de Première Ligue. Hein.
Ouais, effectivement, visiblement, on se dirige vers aucun événement sportif ce week-end. Donc, pas de football, pas de rugby, pas de cricket, pas de course hippique non plus.
Rien du tout. On ne comprend rien, de toute façon.
Ouais, mais il y avait un match très important entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Mais oui, donc pas d'événement sportif. On entre dans une période de deuil de 10 jours maintenant, jusqu'à l'enterrement donc de la reine dans 10 jours. C'est la règle. Donc, c'est vrai que il devrait pas, ça peut changer encore. Enfin, ça peut évoluer, mais pour l'instant, on se dirige effectivement vers le report de tous les événements sportifs, pardon, du week-end.
Tourelle virée. Est-ce que tu confirmes qu'il a été viré parce qu'il a refusé de prendre Cristiano à Chelsea alors que le nouveau propriétaire le voulait?
Non, il n'a pas été viré pour ça. Mais ça faisait partie
des éléments. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il était en embrouille depuis le début sur plein de dossiers.
Exactement, ça fait partie d'une, c'est une des raisons, et en fait elle illustre, c'est pas la raison, mais elle illustre le fait que c'était plus du tout sur la même longueur d'onde. En fait, le problème que Tourelle avait avec Cristiano, c'est pas tant le fait qu'il ait pas voulu le recruter, c'est qu'on lui a demandé 5 ou 6 fois pendant l'été de recruter Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que la première fois où Todd Boehly, le nouveau propriétaire.
Pourtant, le PSG voulait refiler Neymar, vous vouliez une star, et s'il voulait une star, il y en avait une à prendre.
Oui, mais visiblement Todd Boehly préférait Cristiano, sauf que Tourelle lui a dit non une fois, et puis il est revenu à la charge 15 jours plus tard.
Cristiano.
Mais c'est pas la seule raison. Ils s'entendaient pas, ça marchait pas. Ils étaient déçus du style de jeu, des résultats. Il y avait aussi un problème avec les joueurs dans le vestiaire, avec Thomas Tuchel. Il y avait pas mal de choses que les joueurs ne comprenaient plus. Il y avait un message qui passait plus non plus. Lui aurait voulu continuer encore un peu plus longtemps. Il a demandé une deuxième chance. Il a demandé de lui laisser au moins le match de Fulham samedi. Et le club avait, quoi qu'il arrive, pris la décision avant la défaite de Zagreb. Donc de toute façon, c'était pas le problème. Il faudrait qu'on ait plus de temps et j'en parlerai lundi. Parce que l'arrivée de Graham Potter est aussi fascinante en soi, d'être allé chercher quelqu'un pareil, d'avoir.
Tu confirmes qu'ils ont payé 24 millions à Brighton?
C'est ça, voilà. Alors,
et
je pense que 24
coach,
millions,
c'est un record. Hein.
c'est le package total avec aussi les indemnités de départ de Tourelle et de ses adjoints.
Ah d'accord.
C'était 16 millions, il me semble, 16 millions de livres, moi, on m'avait dit, pour la clause de pour libérer Graham Potter, et plus les 8 millions qu'il devait à Tourelle et à ses adjoints. Donc ça faisait 24 millions de livres, mais c'est beaucoup, c'est de l'ordre un petit peu de ce que Chelsea avait dépensé pour Villas-Boas, si je me rappelle bien. Ruben Amorim au Sporting, c'était 10 millions, je crois, 10 millions d'euros. Donc là, c'est vrai que c'est je pense que c'est un record, effectivement.
Manchester United,
enfin, à part Nagelsmann, qui était 25 millions de Leipzig au Bayern.
United qui perd face à la Real Sociedad ce soir.
Ils ont pas bien joué. On avait tous les yeux rivés, bien sûr, sur Cristiano Ronaldo, qui était titulaire.
Qui a marqué un but, qui est refusé.
Refusé pour un hors-jeu légitime, d'ailleurs, mais qui a aussi qui a manqué de vivacité, qui a manqué de rythme, clairement, qui a manqué de confiance aussi. C'est peut-être ça le plus triste, ou en tout cas le plus surprenant, c'est qu'un joueur comme lui, le joueur le plus confiant de l'histoire du football, manque de confiance aujourd'hui. Il y a une demi-occasion, où le contrôle est un peu trop long, où le ballon monte un peu trop, où il lui manque une demi-seconde ou une seconde avant que le défenseur ne revienne. C'est des buts qu'il aurait marqué la saison dernière, par exemple, et qui là, bah, ce soir n'entre pas. Donc, c'était décevant de la part de United, globalement, collectivement, de la part de Cristiano individuellement aussi.
Merci Julien, rien à rajouter ?
Non, juste tout, voilà, toute l'émotion du décès de la reine aujourd'hui. Forcément, les gens qui sont allés à Buckingham Palace, tout le milieu du football et du sport en général.
On a vu des supporters qui pleuraient avant les matchs là.
Ouais, non, c'était très émouvant, vraiment. Après, il y a des générations entières qui n'ont connu que Elisabeth II. Ça fait 70 ans de règne, c'est énorme, quoi. Donc c'est vrai que c'est un pays très très marqué ce soir par le décès de la reine.
Merci Julien, bonne soirée.
Merci les gars.
Avant d'accueillir Nico Jamin, trois infos marseillaises importantes. Enquête disciplinaire ouverte contre l'OM suite au match d'hier à Tottenham. Attention, alors, précision, s'il y a sanction contre l'OM, ça concernera les matchs à l'extérieur. Donc par exemple, fermeture de parkage pour le prochain match de Coupe d'Europe à l'extérieur de l'OM, ce qui leur pend au nez, hein, là. Mais les responsabilités semblent quand même partagées, puisqu'il y a eu jet de projectiles des supporters de Tottenham sur les supporters de l'OM. Le club notamment fait savoir que, selon les témoignages recueillis, beaucoup de supporters marseillais se sont plaints d'avoir reçu de nombreux projectiles venant des supporters de Tottenham, notamment après le deuxième but des Anglais hier soir. Et puis un coup dur économique pour l'OM, Daniel. C'est Cazoo, le nouveau sponsor.
Oui, mais on le pressentait parce que ça faisait un moment que c'était évoqué, ça déjà, que ce sponsor allait retirer ses activités d'Europe. Donc ouais. je pense que les clubs concernés,
Bologne, Valence, Fribourg,
s'ils n'ont pas anticipé, c'est qu'ils sont mauvais, parce que ça faisait deux, trois semaines déjà qu'on savait que ça puait pour ce sponsor.
On n'a pas le montant du contrat exact, hein, entre Cazoo et Marseille, mais
ce chiffre, c'est pas des clopinettes, hein, c'est pas les sponsors du PSG, mais il doit quand même y avoir un petit million dans l'affaire.
Nico Jamin est là pour cette nuit de tennis qui arrive tout de suite. Nico, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir à tous qui nous écoutez ce soir, minuit et demi. On va aller jusqu'au bout de la nuit peut-être ce soir. Je sais pas ce que Daniel t'imagine comme match.
C'est un match de femmes,
ça peut durer 2h45, tu vois. Ça va démarrer à 1h15.
Ce serait énorme que ça dure si longtemps. Hein. C'est rare quand même chez les femmes.
On va voir.
Ça va pas être Sinner Alcaraz. Hein.
Impossible.
Voilà.
Bien sûr. Caro Garcia face à 11 Jabeur, la Tunisienne, 5e joueuse mondiale, qui a toujours battu Caro Garcia dans son duel avec la Française. Mais Caro Garcia est une autre femme, une autre joueuse. Eric Salio est avec nous.
Elle est transformée.
Tiens, j'ai un message de Rémi sur Direct Studio. Il dit: je suis à Flushing Meadows. Comment je fais pour voir Salio?
Ah, Eric, es-tu là?
Bonsoir.
C'est facile. Tu traînes du côté des buvettes, des trucs comme ça, ou des restos.
Sûrement un mec en short.
Non, le rendez-vous idéal, c'est à la Fontaine. C'est à la Fontaine. Rendez-vous à la Fontaine, ouais.
Tu sais qu'il nous a raconté une belle anecdote avant-hier pour le quart de finale de Garcia, qu'il a vécu un US Open avec Daniel.
Ah bah oui, on l'a raconté mille fois.
Ah oui,
je vous laisse, je vous
ils ont dormi ensemble.
Le coup du polochon.
Ouais, du traversin entre les deux là.
Au traversin, polochon, c'est pareil, non?
Si tu veux un traversin, c'est plus grand en général.
Ah bon?
Ouais, je sais pas. Ça dépend des régions.
Le problème pour polochon en Alsace, c'est Eric qui porte un peu la guigne.
Pourquoi?
Pardon?
Il y a un peu la guigne, Eric.
Bah, il a Bartoli à Wimbledon.
Ah ouais, c'est vrai.
Quand même, il a Mauresmo.
Ah, c'est vrai.
J'en ai gagné quelques-uns quand même.
T'as des Coupes Davis aussi, non?
Ah bah pas beaucoup, une seule.
Ouais. En Australie.
Ouais, mais là, ah oui, deux, t'as raison avec Gilbert.
Ah oui, en Australie. Oui,
c'est là avec Gilbert en Australie. Ah, oui. On était tous là, donc c'est nous qui avons contrecarré la guignard.
On l'a tous celle-là au palmarès.
Ah, non, on l'a tous. Hein, Eric, il est un peu guignard quand même.
Bon. Je sais pas, je crois pas.
Enfin, la plus belle histoire de journaliste à New York, c'est un de nos collègues qui achète des bottes.
Non, mais ça c'est trop long. Allez, je vous laisse, il est beaucoup trop tard.
Allez, raconte-la toi.
Non,
synthétique. Version courte. En 30 secondes, tu l'as fait.
Non, il n'y a pas de version courte, c'est beaucoup trop long, il est tard. Et
bon, allez, bah, attends, je vais la raconter.
Ne me frustrant pour ceux qui nous écoutent, c'est terrible.
Ne me gâchez pas ça.
Je vais la raconter.
Bonne nuit, les amis.
Donc, un ami à nous qui travaille sur une grande radio achète des magnifiques bottes à New York, mais cher, tu vois le truc. Il va essayer ses bottes. Il en rêvait avant d'aller à New York. Il dit, je vais aller dans ce magasin.
Ça ressemble à un mec de Radio France. Hein,
acheter les bottes et tout. Il essaye ses bottes. C'est vrai que mettre des bottes, je sais pas si ça se fait toujours, ça. Bref.
Pas des bottes, c'est des bottines, quoi.
Des bottines.
En plus, elles étaient vraiment bien. C'était un peu chic et tout. Effectivement, pendant 15 jours, ils parlaient que de ça. Parce qu'ils les avaient repérés le premier jour. Et comme après, tous les matins, on partait très tôt à Flushing, on revenait la nuit. Il avait jamais eu le temps d'aller à la boutique. Donc le dernier jour, d'ailleurs le 11 septembre 2001, parce qu'on a pris l'avion ce jour-là, nous, pour rentrer. Eric, tu devais être dans le même avion que nous, non? Ou t'es parti?
J'étais dans le même taxi que toi, absolument.
Ah, voilà.
Il va traverser un taxi ou pas? Non.
Vas-y, Daniel. Mais du coup, vous n'avez pas assisté pas là pour le tour jumelles?
Non, on a atterri quand l'avion. Et donc, il a fini par acheter ses bottes avec un cirque pas possible sur le choix, le questionnement. Il les avait enfermés dans un sac. Il n'était même pas question qu'il les ouvre tellement il y tenait. Même Eric, je me souviens, à l'hôtel, Eric a voulu ouvrir le sac, il s'est jeté dessus, il allait le frapper. Il dit, tu touches pas à ça, et tout. Eric me dit, mais ça va pas bien, non? Laisse-moi regarder. C'était impossible. Il a fait le voyage, il a pas voulu les mettre en soute, parce qu'il a dit, je préfère qu'on perde ma valise, mais pas mes nouvelles bottes.
Oui, je me souviens pas de tout ça.
On est arrivé, ça devait être un lundi, un mardi, donc après la finale du dimanche à Paris. Et le samedi soir, donc il n'avait pas touché, il n'avait pas ouvert la boîte, il n'avait pas ouvert le sac plastique. Le samedi soir, sorti, boîte de nuit classique du samedi soir, il ouvre la boîte, il avait deux pieds gauches.
C'est pas vrai, incroyable histoire. Voilà, ce sera le ton de la nuit sur RMC, en mode
Olivier, libre d'écoute. Hein.
L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'en fait, il a appelé la boutique à New York. Il leur a expliqué le problème, et eux t'as dit, mais excusez-nous, mais à part si vous revenez à New York, je vois pas comment on va
pouvoir faire. Enfin, la boutique, ils se retrouvent avec deux pieds droits, c'est con.
Alors, donc, ils ont dit, mais nous avons une boutique à Rotterdam.
Oh,
non. Voilà.
Il se trouve que la sœur de ce confrère faisait ses études à Amsterdam. Il l'a envoyé à Rotterdam dans la boutique pour prendre le bon pied. Les chaussures sont revenues à Paris. Et là, cette fois, erreur, c'était pas la bonne pointure.
Non, mais non.
Je te jure que c'est vrai.
Donc, il avait deux pieds gauche et un pied droit. C'est ça l'histoire. Voilà, magnifique.
Fantastique.
Il est. Mais c'est pas fini. L'histoire. Mais si je vous jure,
Daniel,
c'est la vérité.
Il en parle, Daniel, ou pas?
Il a pris le train, le Thalys. Il est allé aux Pays-Bas faire un scandale dans la boutique. Attends, ça va depuis New York. C'est pas la bonne pointure, machin. Il a eu ses paires de pompes. Il l'a eu. La paire, elle est
arrivée. En payant une fois.
Hein?
En payant une fois. Il a pas.
Il l'a eu. Quand il l'a porté la première fois, il les ampoules partout, elle a dit son maudite, il les a balancées.
Magnifique histoire.
C'est beau.
Il n'a jamais pu les porter.
C'est beau la vie de journaliste quand même. La vie de journaliste de terrain.
Eric était là, mais ouais, il a pas vu l'achat, mais il
est. J'espère que nous allons susciter des vocations avec des histoires de qualité comme celle-ci. Voilà. Merci Daniel.
C'est l'enjeu de la soirée. À 1h, 1h10, première échange.
Je te raconte parce que j'étais avec lui dans la boutique. Je l'ai aidé à les choisir.
Moi aussi, je vais vous laisser. On a une petite transition. Paul, s'il te plaît, transition. Voilà. Là-dessus, bon, messieurs, nous vous laissons.
Et God Save the Queen.
The King maintenant.
The King désormais. Nous vous laissons. Et Florence Serra, il est où?
Il arrive, Florence Serra, notre consultant, il arrive. Il est en régie.
Bah, bonne nuit, les gars.
Bonne nuit, on va se régaler. On attend vos messages sur Direct Studio. 32-16, appelez-nous, l'antenne est ouverte, comme tout le temps sur RMC. Même encore plus ce soir, avec Eric Salio, qui est sur place à Flushing. Et puis Flo Serra, tu l'as dit, Gilbert, qui va nous rejoindre. Notre consultant, on espère une Française en finale de l'US Open. C'est parti dans quelques secondes.
RMC, l'After Live, spécial US Open.